Radio Prague, les informations.
Bonjour, les députés ont adopté le nouveau code civil. Le ministre de l'Industrie et du Commerce nie toute corruption. Et puis en football, malgré une fracture du nez, Petr Čech a rejoint la sélection tchèque avant les matchs de barrage qualificatifs pour l'Euro 2012. Comme annoncé en titre, la Chambre des députés a donc adopté ce mercredi le nouveau code civil. Nouveau code qui modifie notamment trois des domaines fondamentaux, à savoir le droit de la famille, le droit des biens et le droit des contrats. Le texte, qui comprend plus de 3000 paragraphes et doit encore être soumis à l'examen du Sénat, devrait entrer en vigueur à partir de 2014. Le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, a indiqué que la République tchèque avait besoin d'un nouveau code civil plus libéral et protégeant mieux les droits des personnes. L'actuel ensemble de loi amendé à plusieurs reprises datant de 1964. Selon ses auteurs, ce nouveau code civil marquera une rupture avec le droit communiste. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Kocourek, a nié toute corruption après que 16 millions de couronnes, soit environ 640 000 euros, aient été transférés sur le compte bancaire de sa mère. Ce mercredi, Martin Kocourek a expliqué que cet argent lui appartenait, qu'il avait confié sa gestion à une société d'investissement et que la transaction avait été réalisée lors de sa procédure compliquée de divorce en 2008. Le ministre a démenti l'information selon laquelle cette somme d'argent aurait un rapport avec ses fonctions au sein du Conseil de surveillance de ČEZ, la société nationale de production et de distribution d'électricité. Martin Kocourek a précisé qu'il entendait rester à la tête de son ministère, mais que la décision appartenait au Premier ministre Petr Nečas. Le bénéfice net réalisé par ČEZ, la société nationale de production et de distribution d'électricité, au cours du troisième trimestre de cette année, s'est élevé à environ 96 millions de couronnes, soit une baisse de 79% par rapport au troisième trimestre de 2010. Depuis le début de l'année, ČEZ a réalisé 1,5 milliard d'euros de bénéfices, soit 34% de moins qu'au cours des 9 premiers mois de l'année dernière. Les chiffres ont été annoncés ce mercredi par la direction du géant énergétique tchèque. Depuis une quinzaine de jours, une importante dégradation de la qualité de l'air est constatée dans la région de Moravie-Silésie, dans les environs d'Ostrava, dans l'est du pays. La concentration de smog dépasse la limite autorisée dans la plupart des 14 stations de mesure. La quantité de polluants atmosphériques restant supérieure à 50 microgrammes par mètre cube. L'information a été confirmée ce mercredi par l'Institut hydrométéorologique tchèque, qui ne prévoit aucune amélioration dans les prochains jours. La situation est la plus grave dans les environs des villes de Karvina et de Bohumín, où le taux de poussière a atteint 177 microgrammes par mètre cube. La qualité de l'air en Moravie du Nord, région industrielle traditionnelle, fait partie des plus mauvaises en République tchèque depuis de nombreuses années. La 12e édition du festival Mezipatra, entre les étages, festival consacré aux films sur toutes les minorités sexuelles, démarre à Prague ce jeudi. Cette 12e édition, dont la première partie s'est tenue à Brno la semaine dernière, est intitulée Voyage dans le temps. Jusqu'au 16 novembre, les organisateurs proposent au public, à travers quelques 80 films, de voyager à la fois dans le passé, le présent et le futur. Selon le directeur du festival, l'histoire des gays, des lesbiennes et des transsexuels est en effet peu connue, car la plupart d'entre eux cachaient leur orientation sexuelle ou parce que les récits sur leur vie étaient censurés. Le festival débute avec la projection du film Velvet Goldmine, dont l'action se déroule en Grande-Bretagne à la grande époque du glam rock au début des années 70. On passe au sport et au football. Incertain suite à la fracture du nez dont il a été victime samedi dernier dans un match du championnat d'Angleterre, Petr Čech pourrait finalement bien participer avec l'équipe nationale tchèque au match aller des barrages qualificatifs pour l'Euro 2012 de football, et ce vendredi soir à Prague contre le Monténégro. Après avoir reçu le feu vert des médecins de son club, le gardien de Chelsea a rejoint le groupe de l'équipe nationale ce mercredi. L'occasion, lors du premier entraînement, d'essayer le masque de protection spécialement conçu pour lui à Milan, en Italie. Rappelons que depuis une fracture du crâne en 2006, Petr Čech porte déjà un masque semblable à celui porté par les rugbymen. On termine avec un mot de météo. Après une matinée marquée par un ciel essentiellement couvert, le ciel fera progressivement son apparition avec de franches éclaircies sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Evgènes. Les températures varient entre 6 et 10 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Retrouvez tout de suite pour cela la voix très agréable de Magdalena Rosinkova. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Alexis Rosenzweig au micro, donc Aleš Pezel au platine et Irena Viernochova à la réalisation. Dans ce programme, aujourd'hui, nous reviendrons sur les 20 ans du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, le CEFRES, fondé dans la capitale tchèque en 1991. Vous entendrez notamment le politologue Michel Perotino. Et puis de la poésie, ensuite, avec le deuxième centenaire de la naissance de Karel Jaromír Erben, un des maîtres de la poésie tchèque, et c'est il y a deux siècles que il naissait dans les monts des géants. Voilà pour le programme. Ensuite, on passera à l'histoire avec Arkadi Subelova. À partir de l'Europe centrale, analyser un monde qui change. Tel était le titre d'un colloque organisé au début de la semaine à Prague, à l'occasion du 20e anniversaire du Centre français de recherche en sciences sociales, le CEFRES, fondé dans la capitale tchèque en 1991. Mardi, des politologues, sociologues et historiens français, tchèques et d'Europe centrale, notamment ceux qui représentent la jeune génération de chercheurs formés par des institutions comme le CEFRES, ont débattu des thèmes d'actualité, dont la politique migratoire des pays post-communistes, de nouvelles formes de violence ou encore des rapports entre la politique et la culture. Une des tables rondes a été consacrée à un sujet récurrent dans l'espace centre-européen, au populisme et à l'euroscepticisme. Magdalena Hrozinkova a assisté à ce débat.
Le populisme, en tant que réaction aux changements fondamentaux qu'ont subi ces dernières années les pays de l'ancien bloc communiste, le faux euro-optimisme de certaines formations politiques en Slovaquie, l'euroscepticisme et le populisme qui ne sont pas une idéologie, mais une étiquette. Mardi, au CEFRES de Prague, le phénomène a été contextualisé par des politologues français, polonais et slovaques. Voici l'explication d'Anna Pacichniak, maître de conférence à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Wrocław.
On vit dans les sociétés toujours très égalitaires, donc qui sont très attachées à cette notion d'égalité. Et donc, si les populistes disent qu'il faut rejeter la classe politique et aussi les élites politiques, c'est très bien pris par les sociétés égalitaires. Puis, surtout les Polonais, les sondages montrent que, et les analyses des psychologues des sociétés montre que qu'on est les sociétés pas vraiment démocratiques, mais plutôt la société autoritaire. Et donc, on a besoin de leaders, les strong leaders, disons, le Wałęsa, puis aussi Kaczyński. Et donc, je pense aussi, si on est d'accord avec ce qui écrit Jacques Roupnik, que le populiste joue sur les paires d'ouverture face à la mondialisation, à l'Europe, aux migrations. C'est clair aussi que c'est assez facile de jouer cette carte en Europe centrale. Mais je suis d'accord avec Monsieur Mink qui dit qu'il faut voir ça dans la perspective du temps. Parce que vraiment, nos sociétés, pas seulement la société polonaise, mais aussi les sociétés en Europe centrale, en général, changent.
Le secrétaire général du CEFRES, Michel Perotino, se consacre au fonctionnement des systèmes politiques tchèques et français. Nous lui avons demandé de commenter l'évolution de deux partis tchèques, membres de la coalition gouvernementale de centre-droit, le Parti civique démocrate ODS, fondé par l'actuel président Václav Klaus, et Affaires publiques, formation auquel les médias aiment justement donner des étiquettes eurosceptiques et populistes. Michel Perotino.
Il y a des passerelles assez communes ou assez connues. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure sur le fait que on est populiste à un moment donné où on est dans l'opposition et lorsqu'on arrive au pouvoir, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin et on est obligé d'être plus pragmatique que populiste. Donc la pratique, notamment gouvernementale, affaiblit la dimension populiste ou eurosceptique de telle ou telle partie ou personne politique. Concernant l'euroscepticisme de l'ODS, par exemple, sur le long terme, c'est-à-dire depuis au moins une dizaine d'années, et notamment depuis l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, il y a des évolutions assez nettes dans l'ODS qui font que ce parti aujourd'hui est moins eurosceptique qu'il l'était il y a 5 ou 6 ans. Pour parler d'affaires publiques, c'est un parti assez particulier au niveau de sa structure, au niveau de son organisation, de son fonctionnement. Mais c'est aussi un parti qui a fait toute sa campagne sur le changement, sur le rejet des élites à l'époque et encore aujourd'hui au pouvoir, sur l'idée de faire partir les dinosaures. Et à partir du moment où ce parti arrive au Parlement, qu'il rentre au gouvernement, finalement les dinosaures ne le gênent plus tant que ça. C'est-à-dire qu'il accepte finalement lui aussi de jouer le jeu, parce qu'il y a d'autres intérêts évidemment en compte.
C'était Michel Perutino sur Radio Prague. Nous reviendrons sur le colloque organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation du CEFRES à Prague dans nos prochaines émissions.
On passe maintenant à un peu de poésie. Il y a 2 siècles naissait dans le village de Miletin, au pied des monts des géants, Karel Jaromír Erben. Poète, prosateur, folkloriste et linguiste, Karel Jaromír Erben est un des principaux artisans de la renaissance de la littérature tchèque au XIXe siècle. Son bicentenaire est rappelé ces jours-ci par plusieurs expositions, débats et colloques. Václav Richter a vu l'exposition retraçant l'œuvre et la vie de cet écrivain qui a été inaugurée lundi dans la bibliothèque nationale de Prague.
Bien que les propres œuvres de Karel Jaromír Erben soient relativement peu nombreuses, l'ampleur des activités de cet homme à la santé fragile ayant vécu de 1811 à 1870 est énorme. Attirer l'attention du public sur l'ampleur des activités de l'écrivain a été l'un des objectifs de l'exposition préparée par le musée de littérature tchèque et présentée à la Bibliothèque nationale. La commissaire de l'exposition, Dorota Labusová, explique.
Všetky.
Nous voulions évoquer tous les aspects de sa vie et de son œuvre car nous supposions que la majorité des gens se rappelaient encore de ce qu'ils avaient appris à l'école sur sa création littéraire et poétique. Aujourd'hui, les gens ne savent pas cependant qu'il a été un collectionneur et un conservateur de littérature folklorique. Il a sauvé une grande quantité de chansons populaires que nous chantons aujourd'hui et que sans lui, nous ne chanterions probablement plus.
Že vlastně zachránil spoustu lidových písní, které dneska zpíváme a možná bychom je nespívali.
Dorota Labusová de souligner que Karel Jaromír Erben a également été co-auteur de la terminologie juridique tchèque, mais aussi chercheur, historien, éditeur, collectionneur, linguiste slavisant ou encore auteur de nombreux articles dans le grand dictionnaire encyclopédique Rieger. Les auteurs de l'exposition ont réuni des documents sur tous les aspects de sa personnalité. Si cet écrivain n'est pas oublié aujourd'hui comme l'a été la majorité de ses contemporains, et reste étonnamment présent dans la vie culturelle tchèque de nos jours, c'est avant tout grâce à un recueil de poésie. Le recueil est intitulé « Un bouquet » et s'inspire des contes et légendes. Avec une rare force d'évocation, dans une langue aussi poignante que mélodieuse, le poète magnifie les vieux contes et les transforme en chefs-d'œuvre de poésie. Les grands thèmes de ses poèmes, l'amour et la mort, la faute et l'expiation, les mystères du destin humain, n'ont rien perdu de leur intérêt et de leur actualité. Dorota Labusová insiste sur le rôle de la langue du peuple dans la gestation de cette poésie.
Il est revenu à la langue du peuple, à la poésie du peuple, et c'était son inspiration. Cette inspiration n'a pas été que thématique, l'influence de la chanson populaire et des syllabes aussi dans son recueil Un bouquet. C'est la base de sa création, il a puisé dans le fond.
L'autre facette de l'œuvre de Karel Jaromír Erben, qui reste vivante 2 siècles après sa naissance, sont ses contes. Il a fait pour la littérature tchèque ce que Charles Perrault a fait pour la France et le frère Grimm pour l'Allemagne. Dorota Labusová souligne la valeur littéraire de ses contes.
Texty těch známých pohádek je jeho autorské dílo.
Les textes de ces célèbres contes sont ses propres œuvres. Il recherchait les contes et les transcrivait. Dans nos archives, il y a une vingtaine de caisses pleines de contes auxquels il a donné forme écrite, qu'il a recueillis lui-même ou grâce à des amis et des membres de sa famille. Il en a créé tout un fichier des sujets différents. En écrivant les contes, il combinait différents sujets. Le résultat de son travail n'est pas donc une œuvre de folkloriste et de collectionneur dans le sens moderne du mot. Il a vraiment créé ses contes. Ce sont des œuvres originales.
Folkloristika a sběratelství v dnešním slova smyslu. On to prostě vytvořil, ty pohádky.
Nous reviendrons sur l'œuvre de Karel Jaromír Erben samedi dans le cadre de la rubrique Rencontres littéraires.
C'est déjà la fin de la première partie du programme en français de Radio Prague. Mais surtout, restez à l'écoute car il s'agit maintenant d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire tchèque. Et c'est aujourd'hui avec Jarka Gisubelová et Sainte Agnès, car 2011 est en République tchèque l'année Sainte Agnès, pour célébrer les 800 ans de la naissance de la princesse Agnès, future sainte patronne des Tchèques, qui a échangé une destinée royale contre le service aux nécessiteux. Lancée officiellement au mois de mars, l'année Sainte Agnès culminera le 25 novembre prochain par une grande exposition dans le cloître pragois que Sainte Agnès a fondé et qui porte son nom. Mais avant encore, une messe sera célébrée ce samedi dans la cathédrale Saint-Guy en hommage à la canonisation d'Agnès de Bohême le 12 novembre 1989, quelques jours à peine avant le début de la révolution de velours. Jarka Gisubelová.
Chapitre de l'histoire.
Dans le contexte de l'époque, la canonisation de Sainte Agnès de Bohême, Anežka Česká en tchèque, est prise comme un symbole fort. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'écroule. Le 12 novembre, près de 10 000 pèlerins tchèques et slovaques, auxquels les autorités n'ont pas pu refuser les visas, assistent au Vatican à la canonisation d'Agnès de Bohême par le pape Jean-Paul II. 5 jours plus tard, la révolution de velours qui éclate entraîne la chute du régime communiste, plus de 40 ans au pouvoir. Point étonnant que l'événement soit perçu comme un prélude des changements et par beaucoup aussi comme l'accomplissement d'une ancienne prophétie selon laquelle la paix et le calme s'installeront en Bohême dès qu'Agnès sera canonisée. L'historien Vitvelnas est le directeur des collections d'art ancien de la Galerie nationale.
Ano, to se zakládá na starém proroctví, které je...
Il s'agit d'une ancienne prophétie qui est prêtée au prévôt Papouchek de Litoměřice qui a vécu au 15e siècle. D'après ce dernier, quand Agnès sera canonisée, ce sera le début d'une ère meilleure en Bohême. Et c'est vrai que la canonisation de Sainte Agnès de Bohême a été le premier pas vers la chute du régime. Ceci dit, c'est une question de foi si cet événement est considéré comme un simple concours de circonstances ou s'il est jugé dans ses causes et ses conséquences. En tout cas, il est sûr que Sainte Agnès reste à jamais synonyme de novembre 89.
Le 20 janvier 1211 est retenu comme la date de la naissance de la princesse Agnès, sœur du roi Venceslas Ier. Prédestinée à une carrière royale, Agnès y renonce ainsi qu'à toute demande de mariage pour consacrer sa vie à Dieu et aux nécessiteux. Vite, Venas.
Anežka byla to princezna, která se narodila...
Agnès était une princesse, fille du roi de Bohême, Přemysl Otakar Ier, une des figures les plus marquantes de l'histoire tchèque. Sous son règne, l'état des Přemyslides a connu une expansion économique et de pouvoir énorme. Agnès a repoussé plusieurs propositions de mariage auxquelles on l'a prédestinée, compte tenu des raisons politiques et dynastiques, dont celle de l'empereur Frédéric II. Elle renonce à la vie laïque en devenant abbesse. Avec l'appui du pape Grégoire IV, Agnès fonde à Prague l'ordre des chevaliers de la Croix à l'étoile rouge, le seul qui soit d'origine tchèque. Sœur de l'ordre franciscain des Clarisses, qui suit l'enseignement de saint François, elle fonde le couvent de saint François en devenant elle-même sa première mère supérieure.
Zakládá ten klášter na Františku a sama se stává jeho první představenou.
C'est à l'âge de 21 ans qu'Agnès fonde à Prague le premier hôpital destiné aux plus démunis. Sa mission est d'apporter des soins désintéressés aux nécessiteux. Elle possède aussi le talent d'apaiser les conflits.
Tato žena, která mohla vlastně se spolu podílet na osudech.
Cette femme qui aurait pu participer à la vie politique et décider des destinées du royaume de Bohême et de celle de l'Europe centrale a concentré toute son attention aux activités caritatives, aux soins malades et aux pauvres. C'est une femme exceptionnelle, son sort touche plusieurs générations du fait qu'elle cherche le sens de la vie, non pas dans les biens matériels, mais dans la sphère spirituelle. Elle se sacrifie pour les autres, essaye de remédier aux torts de ce monde autrement que les politiciens et les hommes riches. En plus de tout cela, il ne faut pas oublier qu'Agnès reste une grande dame, une femme respectée, honorée par les membres de la dynastie des Přemyslides en tant que fille, sœur et tante des souverains tchèques, et qu'elle sait calmer les querelles qui opposent des membres de la famille Přemyslides.
Usměrňovat, jak si tu věčně rozhádanou přemyslovskou rodinu i uvnitř.
Ainsi, Agnès a servi d'intermédiaire dans la conciliation d'un conflit entre le roi Venceslas Ier et son fils Přemysl Otakar II. La trace qu'elle a laissée dans l'histoire tchèque est très présente au couvent Sainte-Agnès sur la rive droite de la Vltava, qui abrite aujourd'hui des collections d'art médiéval et renaissance de Bohême et d'Europe centrale. Vite, Vlas.
Anežský klášter založila svatá Anežka česká.
Le couvent a été fondé par Sainte Agnès de Bohême dans les années 1270. À l'origine, c'était en fait un double couvent, car deux ordres distincts, des Clarisses et des Franciscains, y ont coexisté, l'un à côté de l'autre, et pourtant divisés. Appartenant à l'ordre mendiant des frères mineurs qui ont choisi de vivre dans la pauvreté, le couvent a pourtant été édifié avec une splendeur imposante. Il représente l'une des premières constructions gothiques en Bohême. Sa beauté architectonique est sans doute due à sa conception pour devenir le lieu de sépulture des rois et des reines de Bohême.
C'est dans le caveau de la famille des Přemyslides, à l'intérieur de la chapelle de la Vierge Marie de ce couvent, que Sainte Agnès morte le 2 mars 1282, à l'âge de 71 ans, est inhumée. Pillé, abandonné après les guerres hussites, le couvent est de nouveau habité par les sœurs Clarisses jusqu'en 1782, date à laquelle l'empereur Joseph II interdit tous les ordres religieux. L'absence de la dépouille de la princesse, considérée comme une sainte de son vivant, est une des raisons pour lesquelles les efforts en vue de sa canonisation, initiés en 1328 par Élisabeth Přemyslides et poursuivis par Jean de Luxembourg ou Charles IV, n'ont pas abouti. Au XIXe siècle, l'ordre des chevaliers de la croix à l'étoile rouge réitère la demande. Grâce à l'archevêque de Prague, le cardinal Bedřich Josef Schwarzenberg, Agnès de Bohême est béatifiée en 1874 par le pape Pie IX. Il faudra attendre novembre 1989 pour qu'elle soit canonisée par Jean-Paul II. Des questions demeurent quant à la dépouille d'Agnès. Le récent examen au géoradar n'a pas confirmé l'hypothèse selon laquelle la tombe présumée de la sainte patronne pourrait se trouver dans la crypte de l'église Saint-Hachtal-Gall, à deux pas du couvent Sainte-Agnès. Peut-on toujours espérer que le lieu abritant les restes d'ossements de la Seine sera retrouvé? Réponse de Vitvelnas.
C'est bien évidemment une question de recherches archéologiques. Quant au couvent Sainte-Agnès, elles sont en ce moment terminées. Les fouilles dans ce couvent se sont poursuivies depuis le XVIIe siècle, où les sœurs Clarisses ont essayé de retrouver la dépouille de la fondatrice de leur ordre. Deux fois, elles croyaient l'avoir trouvée, mais l'authenticité des trouvailles n'a pas été confirmée. Pour ce qui est des derniers examens dans l'église Saint-Gall, c'était plutôt une curiosité. Pour moi, le principal dans le cas d'Agnès n'est pas de posséder ou non la dépouille physique, mais de pouvoir participer et partager son leg spirituel. C'est ce qui est primordial, et l'Église catholique l'a d'ailleurs confirmé en acceptant Agnès au nombre de ses saints patrons, bien que l'opinion sur sa dépouille reste partagée. Comme on le sait, la relique la mieux conservée de Sainte Agnès est gardée à l'Escorial à Madrid. Or, comme il s'est avéré lors des recherches effectuées en rapport avec la grande exposition retraçant la vie de la patronne et qui ouvrira le 25 novembre, il existe en Bohême également depuis des siècles une petite relique, paraît-il, de Sainte Agnès, mais qui n'a pas encore été identifiée.
Avšak dosud neidentifikovaný zřejmě ostatek svaté Anežky.
Et c'est sur ces propos un peu mystérieux de Vít Vlnas que nous terminons cette page d'histoire consacrée à l'anniversaire de la canonisation de Sainte Agnès. Merci de votre attention et à la prochaine.
C'était un nouveau chapitre de l'histoire présenté et produit par Yarka Gisuvelova. Merci à elle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.